Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice et autrice et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Que ce soit à travers mes propres expériences ou celles de mes invités, j'espère que ces contenus vous aideront à vous challenger et à aller au bout de vos projets. Salut Léa, comment vas-tu ?
Bonjour Safia, ça va bien et toi ?
Ça va très bien, merci. Merci de prendre le temps de discuter un peu avec moi et de partager ton expérience d'entrepreneur sur le podcast. Tu vois, je trouve que les expériences comme les tiennes de personnes qui décident finalement de mettre un terme à leur entreprise, il n'y en a pas beaucoup sur Internet. T'as beaucoup de gens qui lancent leur entreprise, on a beaucoup de « j'ai réussi ça ». Je pense que c'est important d'avoir l'autre spectre de « je m'en sortais plus et pour mon bien ». J'ai préféré arrêter, quoi.
C'est pas évident d'en parler, encore plus en France. C'est un petit peu des sujets tabous. La culture de l'échec, c'est pas dans nos mœurs. Mais je pense que c'est bien aussi d'exprimer tout un parcours avec son début et avec sa fin et les difficultés. C'est ça qui fait partie de la vie.
Clairement. T'avais quel âge quand t'as lancé ton entreprise ?
C'était en 2015. J'avais 20 ans à peu près. Ouais, c'est ça.
Ok, c'est super jeune. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça a toujours fait partie de ta vie ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait bien après ?
Alors oui et non, ça dépend ce que tu appelles l'entrepreneuriat a toujours fait partie de ma vie. Dans mon cercle familial, non, pas du tout. Mais par contre, assez vite, quand j'étais plus jeune, je me suis mise à vendre... en fait, j'avais fait un skyblog où je vendais mes propres affaires. Un petit peu un Vinted, tu vois, un petit peu précurseuse de Vinted. Je vendais mes anciens vêtements que je portais plus. À un moment donné, quand j'avais 16 ans, je vendais des extensions que j'avais trouvé un fournisseur. Je me suis dit, pourquoi pas, je peux peut-être trouver des clientes. Ça marchait pas mal, hein, à un tout petit niveau, bien sûr. Et puis, j'ai toujours fait des jobs. Job étudiant, caissière, vendeuse... Je me suis jamais arrêtée de travailler parce que je voulais mon indépendance très tôt. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat est arrivé du coup.
Et t'as pas eu peur à 20 ans de te dire « je crée une entreprise ». Et je vais devoir gérer un stock, je vais devoir gérer des clients et toutes ces choses-là ?
Non, parce que je ne me suis pas posé toutes ces questions, j'ai fait les choses step by step. Je me suis fait en fait ma petite liste de choses à faire. En plus, à ce moment-là, j'étais encore étudiante, donc de toute façon, l'objectif, c'était de commencer tout doucement. Donc, j'ai fait vraiment step by step, comme ça venait. Et puis, j'avais un petit peu cette aisance naturelle. C'était un projet qui venait de mon cœur, c'était un projet qui faisait vraiment partie de mon univers et qui me ressemblait beaucoup. Donc, tout était aussi beaucoup fait à l'instinct et je sentais que c'était ma voie, que c'était fluide. J'avais forcément rencontré des difficultés quand on débute, en plus en tant que femme jeune, je pense qu'on peut en reparler après. Mais malgré tout ça, c'était assez clair pour moi. Je me disais, tant que je ne prends pas des risques vraiment énormes et irréfléchis, je peux y aller.
Ouais. Aujourd'hui, tu as un compte Instagram qui est l'ancien compte de ta boutique qui a plus de 160 000 abonnés. Est-ce que tu avais déjà une petite présence sur Instagram avant de créer ta boutique, ou est-ce que c'est venu avec le temps ?
Pas du tout. J'ai fait le schéma inverse que beaucoup d'Instagrammeuses du coup font, où normalement bah, on acquérit d'abord une notoriété, une communauté, et ensuite on lance une marque, peu importe le produit ou le service qu'on souhaite. Moi je l'ai fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que je me suis fait connaître avec du coup mon compte de la boutique en tant que Léa, créatrice de Léa Z Boutique. Et c'est à ce moment-là que ma notoriété est venue, et j'avais pas du tout à la base cette casquette influenceuse.
Ok, bon, c'est intéressant, et je trouve que c'est important de le dire, parce qu'on a tendance à penser qu'on doit d'abord créer une audience, avoir un certain nombre d'abonnés pour commencer à entreprendre des projets, alors que tu nous montres que finalement non, c'est pas du tout indispensable, et qu'on peut construire tout ça, mine de rien, avec le temps et en développant son activité. Toi, c'est un truc que j'ai remarqué chez toi, c'est que mine de rien, ton audience, elle est quand même très forte, elle est très engagée. Donc, voilà, je pense que c'est un bon moyen de se dire, on peut y aller comme ça, avec ce qu'on a aujourd'hui, et évoluer avec le temps.
C'est ça, je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il faut se fixer des objectifs, certes réalistes, ça c'est sûr. On peut pas, avec zéro abonné, imaginer faire 300 ventes. Hein. Il faut clairement être réaliste. Mais en effet, on peut y aller petit à petit, step by step, et puis grandir et évoluer. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et puis, bah, ça a bien marché, parce que même si Léa Z Boutique est fermée aujourd'hui, j'ai connu des beaux succès.
Ouais, on va y venir. Mais du coup, quand tu décides de lancer ton entreprise, voilà, quelles sont les premières étapes ? Tu te dis, je vais ouvrir une boutique, je vais vendre des vêtements et des accessoires. Par quoi tu commences ?
C'est ça. Alors du coup, moi, j'étais encore étudiante à ce moment-là. Donc, j'ai fait d'abord un DUT technique de commercialisation, parce qu'on me demande souvent quelle étude j'ai fait pour avoir ce parcours-là. J'ai adoré ce DUT, j'étais plutôt bonne élève. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais suivre le parcours un petit peu logique, de me dire, ben, je vais en école de commerce, parce qu'après DUT-TC, c'est souvent ça. Et avant le master, tu as le bachelor quand tu rentres dans le parcours programme grande école. Et en fait, moi, je m'ennuyais pas mal, parce que le bachelor reprend pas toutes les bases du commerce que moi j'avais déjà pu voir. J'avais mon job étudiant, de caissière, de vendeuse à côté, mais ça me faisait pas vibrer. Moi, ce que j'aimais, c'était la mode, c'était inspirer les filles quand mes copines me demandaient « Ah, mais j'adore ton look, il vient d'où ?» etc. Donc, pouvoir inspirer du coup mon entourage, parce qu'à ce moment-là, j'avais que mes réseaux perso. J'adorais la photo, j'étais modèle photo, j'avais quelques contrats par-ci par-là, et bah voilà, quand même le côté réseaux sociaux, faire un petit peu de graphisme, faire des jolis montages, voilà ce que j'aimais. Et puis la première idée, c'était plutôt de faire peut-être un blog mode. Et je pense qu'après, l'axe business qui est venu un petit peu là-dessus, et où je me suis dit, ben en fait, pourquoi faire un blog mode et pourquoi pas directement en fait faire la boutique où je vends les vêtements que je vais montrer dans mes looks. Du coup, c'est comme ça que est venue l'idée de la boutique. Donc, un papier, un stylo, c'est ça qu'il vous faut pour démarrer, ou alors un bloc-notes de votre téléphone, et puis vous listez tout ce que vous avez à faire. Donc forcément, j'ai commencé à lister tout ce qu'il y avait sur l'aspect financier, faire un petit peu quelques petits calculs. Il n'y a pas besoin d'être comptable hein, pour faire les débuts de calcul. On prend à peu près les charges qu'on va avoir, on fait entrée potentielle, et puis voilà, entrée-sortie, et puis on voit si le projet est à peu près viable, au moins pour avoir une première idée. Je me suis un petit peu renseignée sur le juridique, ok, je vais devoir me déclarer, bah, quel statut je vais prendre, etc. Donc j'ai commencé comme beaucoup en micro-entreprise, et c'est ce que je conseille à tous. Je trouve que c'est un super statut qui permet d'accéder à l'entrepreneuriat sans avoir trop de formalités, sans que ça coûte trop cher. Donc moi j'ai aussi débuté comme ça. Après, tout ce qui va être autour de la marque en elle-même, donc le nom, parce qu'au départ, c'était pas du tout prévu que ça s'appelle Léa Z Boutique. C'est après avoir cherché plein de noms, je me suis dit, mais en fait, je vais juste faire ma signature, quoi, tout simplement, Léa Z, la boutique de Léa. Et puis, c'est moi, c'est ma patte, et ça va me ressembler de toute façon. Toute la partie direction artistique, mon univers de marque, etc. La recherche des fournisseurs. Le site internet, sur quelle plateforme j'allais le faire, comment j'allais vendre, parce que pour moi, c'était clair et net dès le départ que je voulais faire quelque chose qui était en ligne. Et puis après, toute l'organisation opérationnelle, bah voilà, ok, comment je vais emballer mes colis si j'ai une première commande, comment est-ce que je m'organise en termes d'emploi du temps, est-ce que je poste sur les réseaux sociaux, comment je fais mes photos, etc. Donc ça, c'est vraiment de l'organisation pure et dure. Voilà pour les débuts.
Effectivement, c'est super clair. Est-ce que tu te souviens de l'investissement que tu as mis au départ pour lancer ta boutique ?
Difficile de me souvenir exactement, mais je dirais entre 3 et 5 000 euros.
Ok.
Et c'était un apport personnel directement parce que j'ai toujours travaillé, donc en fait j'ai pris toutes mes économies.
Et en matière de stock, est-ce que tu as fait des préventes ou est-ce que tu as directement acheté des pièces que tu as un peu stockées chez toi et tu as commencé ensuite à développer ton entreprise ?
C'est ça. Alors, du coup, j'ai commencé dans mon appart étudiant. Donc, en effet, j'avais tout le stock chez moi. Donc, au début, j'arrivais à mettre des cartons comme ça le long de mon lit. Et puis, petit à petit, j'ai dû prendre une étagère parce qu'il a fallu gagner en hauteur. Enfin, voilà, ça s'est développé chez moi jusqu'à que ça soit plus possible. Je faisais les colis sur mon tapis de salon, assise par terre. Enfin, vraiment, les débuts d'une boîte. Mais c'est comme ça que ça se passe aussi. Je regrette de pas l'avoir filmé parce que à l'époque c'était un petit peu tabou tout ça, de vraiment montrer les débuts, la galère. Bah non, on est censé avoir une bonne image, une belle entreprise, et j'ai très peu filmé tous ces moments là alors qu'aujourd'hui ben ça fait vraiment partie de mon histoire et moi je suis fière de tout ça. Mais c'est vrai qu'en 2015, 2016, 2017, il n'y avait pas ce mindset-là de montrer forcément les galères. On débloque de plus en plus les choses, mais ce n'était pas le cas. Et en effet, au départ, bah, j'ai tout de suite commandé du stock. Alors, pas un stock énorme, c'est sûr, parce que de toute façon, 3-5 000 euros qui prend en compte tous les frais. Quand on se lance, il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de frais. Ce que je te disais avant, avec la micro-entreprise, par exemple, il n'y a pas vraiment de frais. Donc voilà, 300 000 euros, ça représente un stock... pas super grand, donc voilà, j'avais acheté le stock parce qu'en fait, je pouvais pas me permettre vraiment de faire des préventes parce que dans le vêtement, c'est compliqué de faire ça. Parce que si on fait des préventes et qu'après, il n'y a plus le modèle qui est dispo, on peut pas le réserver chez le fournisseur.
Ok. Ok, ça c'est effectivement c'est un point qui est intéressant à soulever, mais avant j'avais quand même des petites questions sur ta stratégie de com et de visibilité. Qu'est-ce que tu as mis en place pour faire en sorte que Léa Z Boutique soit visible par le plus grand nombre ?
Alors, au début, je l'ai fait beaucoup au ressenti, à l'intuition, et de me dire, ben voilà, qu'est-ce qu'en fait... moi, j'aimais faire du shopping, donc qu'est-ce qui me plaît à moi en tant que cliente ? Qu'est-ce que je souhaite en tant que cliente ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Qu'est-ce qui me fait kiffer quand je vais faire mon shopping ? Et je voulais que ce soit possible dans mon e-shop, donc c'était à moi de tout créer. J'ai toujours fait ma com de manière 100% authentique, c'était un univers qui me ressemblait, donc c'était assez naturel pour moi. Pour la communication, je pense également que j'étais là au bon moment avec le bon concept, donc un concept plutôt novateur qui est une marque incarnée. On en voyait très peu. Dans le vêtement, moi, j'en connaissais pas. Donc en fait, c'est moi, Léa, qui me suis mise en avant, la créatrice de la marque, en tant que propre modèle de la marque. Et voilà, les filles, elles savaient que quand elles écrivaient à Léa, etc. Même si au bout d'un certain moment, et après plusieurs années, je me suis développée, j'ai développé une équipe, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Donc je pense que ça a beaucoup vraiment boosté ma com et qui a fait ma différence. Et j'ai été aussi régulière. J'ai jamais fait de pause. À aucun moment, je me suis dit, ah bah, je vais laisser le compte, on verra ça plus tard, là, j'ai mes examens. Non, je m'organisais. Il n'y a jamais eu de pause, sauf vraiment quand j'étais toute seule la première année et que j'avais zéro personne qui pouvait me remplacer et que je suis peut-être partie en vacances une semaine parce que là, du coup, j'étais vraiment à l'étranger et pour le coup, c'était pas possible d'aller poster les colis. Mais je pense que la régularité, ça paye beaucoup, beaucoup. Et quand tu te diriges vers un milieu, pour moi, tu peux pas venir pour prendre. Il faut vraiment arriver et puis apporter quelque chose. Et à ce moment-là, je pense que j'ai apporté quelque chose de nouveau et de différent.
Et comment tu t'organisais avec tes études et tes jobs étudiants à côté, au quotidien ? Genre, c'était les soirs et les week-ends ?
Oui, alors le job étudiant, c'était un job étudiant qui était entre 5 et 15 heures par semaine. Donc, ça dépendait en effet comment je m'organisais et les shifts que j'avais à faire. Donc ça, bah, je l'ai placé au mieux, parfois le matin très tôt parce qu'on pouvait faire les ouvertures, donc on pouvait commencer à 7 ou 8 heures, ou parfois tard parce que quand tu faisais la fermeture, tu pouvais finir, je crois, à 21h ou 22h. Les cours, j'avais eu au bout de la deuxième année, j'étais passée à un comité pour avoir le statut étudiant-entrepreneur qui me permettait d'aller moins en cours, en tout cas d'avoir une excuse légitime et validée par l'école pour ne plus aller en cours quand c'était nécessaire, et bien évidemment, obligation de présence aux examens, enfin voilà, j'avais quand même encore mes obligations, mais donc les cours, je pouvais, à partir d'un certain moment, quand même pas mal en manquer, et bah, j'ai toujours fonctionné par priorité, donc voilà, si ça faisait un jour que j'avais pas fait de colis, et que je voyais que j'avais 10, 15, 20, 30 commandes à traiter, bah là, il fallait faire les colis, il fallait y aller, il fallait que ça parte avant la levée, et surtout que moi, j'avais envie que mes clientes aient une expérience clients vraiment super positives et qu'elles reçoivent leur colis vite parce que quand on fait du shopping, on a envie que ça arrive vite. Donc bah voilà, je faisais des pieds et des mains pour que ça parte au plus vite. Et puis ouais, c'était vraiment une question d'organisation, d'horaire et de semaines. Et je travaillais tous les soirs sur la boutique à réfléchir à mes postes. Je travaillais tous les week-ends. De toute façon, ça, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, je pense.
Ouais, complètement. Alors, t'as commencé en micro-entreprise et puis t'as décidé un peu plus tard de créer ta SARL. Donc tu disais que tu avais, sur la première année, fait absolument tout toute seule. Est-ce que c'est sur la deuxième que tu as commencé à déléguer des choses ?
Oui, à un moment donné, je me rendais bien compte que c'était plus possible de tout gérer. Donc petit à petit, je sais plus à partir de combien de temps vraiment, mais petit à petit, ben, j'ai commencé à lâcher un premier job étudiant, puis un deuxième. Et pour pouvoir être donc totalement libre et ne plus avoir de job, surtout à partir du moment où le comptable m'a dit « Mais madame, faudrait peut-être penser à vous rémunérer. » Moi, je n'osais pas toucher à l'argent de la boutique parce que je me suis dit « Ben, c'est de l'argent que je vais peut-être avoir besoin de réinvestir. On ne sait jamais. On a un petit peu peur au début quand on commence. On se dit « Non, mais c'est fou que ça marche. Limite, on n'y croit pas, c'est pas possible. » Donc voilà, j'ai fait les choses petit à petit et en effet, j'ai à un moment donné eu besoin d'aide. Donc, j'ai commencé d'abord par déléguer la partie logistique, les colis, parce que c'était ce qui était le plus facilement délégable. Donc, dans un premier temps, j'ai fait appel à une personne de mon entourage qui avait besoin d'un stage et ça correspondait à sa recherche. Après, elle a pu voir d'autres aspects que uniquement les colis parce qu'elle était à mes côtés pendant que moi je travaillais aussi. Donc voilà, j'ai commencé par une stagiaire, puis après j'ai recruté, puis voilà, petit à petit j'ai construit mon équipe comme ça, step by step et selon les besoins de l'entreprise.
Ok, et du coup tu dirais que c'était à quel moment l'âge d'or entre guillemets de ta boutique, le moment où, parce qu'en fait tu en vivais clairement, le moment où tu avais le plus d'engagement sur tes contenus, de ventes sur tes produits, etc. Comment ça se passait au quotidien ? Est-ce que pour toi c'était, certes, il y a de l'argent qui rentre, les clients sont contents, mais moi je suis un peu débordée ou j'ai du stress et j'ai encore plus de responsabilités, ou est-ce qu'au contraire c'était pas une balade tranquille mais ça roulait plutôt bien quoi ?
Non, ça reste la tête dans le guidon. Quand j'ai les souvenirs qui me reviennent, parce que voilà, sur ces 8 années, il y a eu plein d'étapes, il y a eu plein de cycles et plein de phases, mais j'avais quand même beaucoup, beaucoup la tête dans le guidon. J'étais jeune aussi, donc forcément, j'étais encore plus fonceuse et j'avais moins cet aspect de me dire, en fait, parfois, il faut juste prendre du temps, même si c'est 1 ou 2 heures, mais sur une semaine, prendre du recul et réfléchir. Réfléchir à ma vision, réfléchir à ce que je veux. Et c'est vrai que les choses allaient tellement vite que je bossais. Et moi, je suis quelqu'un qui est très dans le faire. J'ai besoin d'être dans l'action. Donc, l'aspect réflexion est plus difficile à amener. Mais donc, ouais, je pense que c'était plus tête dans le guidon quand même, mais avec beaucoup de plaisir parce que j'ai toujours kiffé ce que j'ai fait.
Tu disais tout à l'heure que tu avais développé finalement une boutique avec une marque qui était incarnée, puisqu'effectivement, c'était toi l'image. C'était toi qui, au début en tout cas, gérais le service client, etc. Est-ce que ça a suscité des difficultés chez toi dans le sens où très souvent, la frustration des entrepreneurs, ce sur quoi ils résistent le plus, c'est sur le fait de déléguer des choses parce qu'ils se disent justement que leur audience sont habitués à leur façon de communiquer, leur message et que si c'est quelqu'un d'autre qui reprend la main dessus, les gens ne vont pas apprécier. Est-ce que tu as eu cette crainte toi aussi ?
Oui, au départ j'ai eu énormément de mal à déléguer. J'ai dû apprendre en quelque sorte à déléguer, apprendre que le travail ne serait pas forcément moins bien fait, apprendre que... parce qu'au départ, moi je me rappelle que vraiment au début, je tenais le discours « mais c'est impossible que je délègue ne serait-ce que les colis, parce que personne ne mettra autant d'amour que moi dans les colis. » Ça, c'était mon pitch au début quand mon entourage, des collègues dans mes jobs me demandaient « Mais comment tu vas faire ? Tu vas faire tes colis toute la vie ?» On me disait ça, toute ta vie tu vas faire des colis. Et moi, au départ, je répondais ça. Donc, pour te dire à quel point, oui, j'étais loin de m'imaginer pouvoir déléguer. Et puis, petit à petit, ça s'est présenté. À un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Moi, je suis assez utopiste, hein. Et puis, mon utopie m'a eu là-dessus. Donc voilà, j'ai réussi à déléguer une première fois. Et je pense aussi parce que c'était une personne de mon entourage proche qui a eu besoin de ce stage. Donc ça s'est bien fait. Ça m'a permis de donner ma confiance à quelqu'un en qui j'avais déjà confiance. Mais du coup, ma confiance dans le pro, sur mon bébé. Parce que c'est comme la première fois, je pense, qu'on met son bébé à la crèche ou chez la nourrice, tu vois. C'est le même feeling. C'est archi dur de lâcher. Donc le fait d'avoir eu une personne proche et de confiance à qui j'ai délégué pour la toute première fois quelque chose, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et petit à petit, j'ai appris. Et en fait, déléguer, ça s'apprend. Il y a d'abord un travail forcément sur soi-même, mais après, il y a aussi un travail de process à réaliser, où on va réaliser en fait une fiche process, moi c'est comme ça que je les appelle, et on va expliquer à la personne toutes les étapes. On va expliquer le pourquoi de cette mission, à quoi cette mission sert, les objectifs, la vision qu'on a peut-être cette mission, qui est responsable de cette mission, qui est acteur de cette mission, qui est collaborateur de cette mission, pour que ce soit bien clair, pour que un petit peu comme presque un second contrat où on explique vraiment tous les éléments. Et après, il n'y a pas de raison que ça roule pas, parce que du coup, on a tout bien expliqué, on a un process, et puis après, il suffit de l'appliquer. Bien évidemment, quand on est dans un milieu peut-être plus artistique comme la communication, il faut aussi savoir laisser cours à l'imagination de chacun, la créativité de chacun. Et ça fait partie du job de la communication, ça c'est sûr, mais ça n'empêche pas que derrière, par exemple, on puisse valider. On peut dire, voilà, propose-moi des idées sur ça, 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 ça. Et puis après, nous, en tant que chef d'entreprise, si on veut garder la main, on peut toujours se dire, bon, bah ok, par contre, soumis à validation, oui ou non, est-ce qu'on est ok de faire ça? Par contre, la communication en elle-même, ça, j'ai toujours gardé quand même beaucoup la main dessus, parce que ce soit les stories, ma communication Instagram, c'est venu vraiment juste là, les tout derniers mois de l'entreprise, où j'avais d'autres idées, d'autres choses à développer, où là, j'ai délégué ça. Mais ça, sinon, j'ai gardé la main dessus tout le long, parce qu'il fallait quand même que ce soit moi et ma patte.
Ouais, je comprends, je comprends. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, tout est une question d'organisation et de préparation. Tant que t'es clair, toi, sur ce que tu veux déléguer, sur la façon dont tu veux que les gens fassent le travail, ça réduit, on va dire, le champ des erreurs ou des trucs qui ne conviennent pas, quoi.
Tout à fait. Et puis, avant tout ça, il y a l'étape de recrutement, où c'est super intéressant, où c'est super important de recruter les personnes qui correspondent au poste et qui correspondent au profil recherché, aux compétences recherchées, etc.
Ouais, complètement. Toi, t'as eu des salariés ?
Oui, tout à fait. On était du coup 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 5 salariés plus moi, donc on était 6 dans l'entreprise. Et par rapport à la logistique, une fois que j'avais d'abord commencé à déléguer en interne, et après j'ai décidé de déléguer ma logistique en externe parce que ça devenait vraiment trop compliqué à gérer. Et surtout, j'avais plus de place dans mes locaux, en fait, mes locaux devenaient trop petits. Donc, j'avais le choix, soit je grandissais en interne, soit j'externalisais. Et j'ai choisi d'externaliser avec un ESAT. Donc, c'est un établissement d'aide par le travail. Pour moi, ça me tenait à cœur d'avoir un engagement social. Et le fait de pouvoir réaliser les commandes avec un ESAT, je trouvais que c'était une superbe opportunité. Donc, je me suis dirigée vers un ESAT avec qui ça a très bien matché. Et on a travaillé ensemble pendant 4 ou 5 ans. Et eux, comme moi, on a beaucoup, beaucoup aimé travailler ensemble. C'était un super partenariat très riche des deux côtés. Et l'aspect vêtements, tu vois, les personnes qui travaillaient à l'ESAT, pour eux c'était trop chouette parce qu'ils voient beaucoup de cartons toute la journée, ils font forcément des tâches plutôt répétitives. Et je sais que le côté vêtements, tu vois, parfois t'as des paillettes, t'as des couleurs, t'as des matières un peu différentes, ils kiffaient trop. Donc moi c'était un plaisir de bosser avec eux.
Ouais, je comprends, je vois. Est-ce que t'es à l'aise avec le fait de parler d'argent ou pas du tout?
On peut.
Ok. Est-ce que tu as une idée de la fourchette du CA qui était générée, on va dire, à l'année? Parce que, en fait, je me dis, certes, t'as une boutique qui tourne. T'as des salariés aussi, ce qui représente un coût, mine de rien. Donc, pour avoir un peu plus de contexte, combien de CA environ tu générais par an?
Alors, du coup, le CA en lui-même a forcément changé toutes les années. Ça n'a jamais été le même. Donc, te dire environ combien par an, ça va être compliqué parce que y a des années où on peut passer presque du simple au double. Donc, il y a eu pendant les 5 premières années, on était en full croissance. Donc, j'ai atteint jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires.
Okay.
Et ensuite, ça a commencé du coup à baisser petit à petit, et ça a commencé à baisser notamment à cause du Covid, parce que le Covid, les personnes consommaient moins de vêtements, donc c'est à ce moment-là que ça a aussi commencé à baisser. Donc si tu veux, il y a eu une montée, puis après une descente petit à petit.
Toi, quand le Covid est arrivé, tu savais que c'était ça allait être un gros obstacle pour toi, ou est-ce que tu t'es dit quand même, t'es resté optimiste, et tu t'es dit à un moment donné, ça va se lever et les gens vont reprendre leurs habitudes de consommation?
Ah oui, moi je me suis totalement voilée la face. Déjà, moi j'y croyais pas du tout qu'en 2020 on pouvait être confiné. Enfin, pour moi ça n'existait plus, c'était pas possible. Quand les personnes ont commencé à parler de ça, ouais, il y aura l'armée dans les rues, etc., je sais pas, les dingueries qui ont été dites, surtout au tout début quand on était novice de ça, parce qu'à la base on voyait que c'était un virus qui venait de Chine. Moi je regarde très peu les actualités parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas, et c'est un climat que j'aime pas, et donc voilà. Je pense qu'on était beaucoup, beaucoup à être à milieu, de s'imaginer ce qui allait se passer, les changements de consommation qui allaient être engendrés derrière, les changements sociétaux. Enfin, il y a eu quand même un bouleversement. Et moi, j'étais à milieu de m'imaginer ça. Jusqu'au dernier jour, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais non, on va jamais nous annoncer qu'on est confinés. Donc non, moi, j'ai eu ce côté plutôt utopiste où j'y croyais pas. Et donc pour moi, il allait pas avoir d'impact. Donc j'ai eu une forme au départ de rigidité face à ça. Je me disais, mais non, ça va redevenir comme avant, ça va redevenir comme avant. Et je pense qu'au départ du Covid, ouais, j'ai manqué un petit peu d'agilité.
Ouais, rétrospectivement, tu te dis qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment?
On peut toujours se dire qu'on peut faire différemment. Après, moi, je pars quand même du parti pris de toujours tout donner pour avoir vraiment très peu de regrets. Donc, je pense qu'à cet instant T, avec mes croyances, la position dans laquelle j'étais, la situation, le contexte. J'aurais pu difficilement faire mieux parce que je me suis super bien battue. J'ai donné quand même tous les moyens qui étaient possibles pendant le Covid pour essayer de garder quand même la logistique ouverte, au moins minimum, même si on est un petit peu plus lent dans les colis parce qu'on est limité en termes de main-d'œuvre. Enfin, je sais que quand même, j'ai donné le maximum et de toute façon, dans ma réalité actuelle, oui, j'aurais peut-être fait les choses différentes. Mais là, forcément, je suis une réalité à plus de 3 ans. Donc, j'ai appris encore plein de choses depuis 2020. Donc, non, je pense qu'à ce moment-là, j'ai donné en tout cas du meilleur que je pouvais et j'ai pas de gros regrets.
Ouais. Et parmi les difficultés que tu as identifiées, en tout cas à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais, est-ce qu'il y a eu d'autres choses que le fait que les gens achètent moins qui ont contribué au fait que tu décides d'arrêter ton entreprise?
Alors, du coup, bon, il y a déjà en effet, comme je te l'ai dit, le Covid qui a bouleversé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein d'entreprises qui ont été touchées. Moi, j'ai eu aucune aide. Mon CA avait largement baissé. Il correspondait à tous les critères d'aide de l'État. Mais il y avait un critère, je ne sais plus exactement lequel, mais qui a fait que je n'ai pas pu avoir l'aide alors qu'en réalité, j'en avais besoin. Donc, j'ai eu aucune aide. Donc, on a dû faire 100. Avec les équipes, on a travaillé à la réduction des coûts au maximum. Tu vois, par exemple, cette réduction des coûts, j'aurais peut-être dû l'acter un petit peu plus tôt. Au départ, j'étais persuadée, ça va reprendre plus tôt. La vie va redevenir comme avant, on va tout oublier. Tu vois, par exemple, cette réduction des coûts, est-ce que j'aurais pas dû la mettre en place un petit peu plus tôt? Voilà, c'est ce genre de questions, oui. Mais bon, avec des si, on peut refaire le monde et ça sert à rien, je pense, de se triturer l'esprit sur tout ça. Ce qui a été fait, donc je suis en paix avec ça. Mais on a décidé aussi de se renouveler, de se challenger différemment avec les équipes. Et puis, petit à petit, le temps est passé. Donc, j'ai traîné quand même quelques casseroles, du coup, de difficultés du Covid. L'activité a forcément quand même bien repris. Quand il y a eu toutes les réouvertures, les sorties, on pouvait retourner au resto. Donc là, ça a très bien repris. Et petit à petit, je sentais quand même qu'il y avait quelque chose dans le business qui s'essoufflait. Et je pense que oui, il y a plusieurs autres facteurs. Hein. Il n'y a pas que le Covid. Un des facteurs, c'est aussi le prêt-à-porter milieu de gamme qui a pas forcément le vent en poupe et de moins en moins. Parce que le prêt-à-porter milieu de gamme commence à être quand même bien concurrencé par tous les acteurs, les grands acteurs chinois. Donc ça rend quand même le game un petit peu plus difficile parce que forcément, on ne peut pas rivaliser, en fait, c'est juste impossible. Il y a énormément de personnes qui pensent qu'on fait des marges affolantes, mais dans le prêt-à-porter, en fait, les marges, elles ne sont pas si énormes que ça. Parce que bon, en tant que consommateur, quand on ne connaît pas le business, on va sur des sites chinois, on voit le prix de tel petit top. En plus, les photos sont souvent des photos volées, donc on a l'impression que c'est le même top alors que ce n'est pas du tout le même. Mais voilà, on voit une photo d'un petit top, on voit qu'il est à 3-4 euros, on voit que le e-shop français en face, il le vend 30 euros. On se dit, mais il y a une douille, elle se fout de nous. Alors que non, en fait, les marges ne sont pas super mirobolantes hein, dans le prêt-à-porter. Encore plus le milieu de gamme, parce que finalement, le milieu de gamme tire de plus en plus et les consommatrices veulent de plus en plus tirer vers avoir des bons prix et des prix discount. Mais quand on est une entreprise... alors, soit on est de nouveau à ses tout débuts et du coup, on a vraiment très peu de coûts, on n'a pas d'équipe, on est toute seule. Et alors là, oui, on peut avoir des marges intéressantes. Mais quand on commence à grandir, comme moi, le niveau que j'ai atteint... on a des frais, on a des personnes à payer, on a des salaires à assumer, des prestataires à assumer. Et on se retrouve en fait avec des marges qui sont vraiment, vraiment minimes. Donc toute cette complexité du marché et de la concurrence aussi a forcément pesé dans la balance de la décision de la fermeture qui a été une décision horrible et super dure.
Parle-nous un peu de cette prise de décision et de finalement ce que tu as ressenti à ce moment-là. Est-ce que tu étais dans une phase où... Tu t'es dit, ok, je me suis bien battue, mais là, je sens que ça va trop loin. Est-ce que tu t'es dit, je veux préserver ma santé mentale? Est-ce que tu t'es dit, je veux fermer l'entreprise avant qu'il n'y ait encore plus de dégâts? Tu vois, dans quel, finalement, environnement et dans quel contexte tu étais? Parce que c'était très récemment, c'était, du coup, si je ne me trompe pas, l'été dernier? Été 2022?
Non, c'était là, tout début 2023, c'est super récent. Début 2023, je pensais que t'avais, j'ai annoncé fermé.
Oui, en fait, j'ai vu l'annonce, mais je pensais que tu y avais... réfléchi depuis, tu vois, plusieurs mois et que c'était quelque chose en arrière-plan, quoi.
Pas tant que ça. Ça s'est fait assez vite. Ça a été une décision fait vraiment pas de gaieté de cœur, ça c'est sûr. J'ai passé quasiment un mois où je dormais quasiment plus. Mon cerveau, il s'arrêtait pas. J'avais mal à la tête tout le temps, mal au cœur parce que ça tournait. Et c'était une décision difficile. J'étais seule face à une situation que j'avais jamais envisagée, que j'avais jamais vécue tout court. J'étais en train de perdre ce que j'avais construit avec tant d'efforts et de sacrifices. Donc voilà, le financier a accéléré la décision. Mais en effet, il y avait un côté aussi rythme de travail où il fallait, pour faire face à cette concurrence, tout le temps être capable de se renouveler, tout le temps être sur le front, tout le temps être derrière. Et en fait, ça me demandait... Moi, à un moment donné, je faisais une collection par semaine. Une collection par semaine où j'avais minimum entre 10 et 15 pièces, nouvelles pièces à chaque fois. Donc, il fallait faire les shootings, les fiches produits, la communication, les previews. Enfin, il y avait une organisation de ouf. Donc, au départ, c'était toutes les semaines. Après, on est passé à toutes les deux semaines parce qu'on voulait aussi orienter les gens vers une consommation un petit peu plus raisonnée. Donc, de se dire, voilà, il y a un petit peu moins de nouveautés. Mais par contre, peut-être que les collections seront un peu plus fournies. Et comme ça, quand vous commandez, vous commandez qu'une seule fois, mais vous avez une vue plus grande sur toute la collection. Le rythme de travail, si tu veux, je m'étais en quelque sorte aussi, et je m'en rendais compte, enfermée dans ma propre prison dorée. Donc il y avait des aspects que j'aimais beaucoup et ça me dérangeait pas du tout d'être enfermée dans ces, en quelque sorte, ces obligations, parce que quand je m'engage dans quelque chose, je le fais. J'ai pas manqué un seul dimanche de nouvelles collections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule fois un message sur mon Instagram en mode « Désolé les filles, finalement, la collection, elle sortira pas dimanche, je vais devoir la sortir dans un jour, dans deux jours. » Sur 8 ans, il n'y a pas eu un démarrage de collection manqué, un dimanche de manqué, zéro. Et sachant que le dimanche, ça me demandait de me lever tôt pour tout encore vérifier, tout mettre en ligne, parce que je le faisais manuellement, j'appuyais pas sur un bouton, c'était automatique, je voulais vérifier que tout se passait bien, que tout était ok. Bon, ça c'était la petite parenthèse, je m'égare par rapport à ta question. Donc voilà, comme dit, le financier ça a accéléré, mais je me rendais compte aussi que le rythme de travail était quand même compliqué et que c'était tout le temps se renouveler, donc c'était un peu ce cercle infernal. Et donc, c'est quand j'ai vu en fait les résultats de 2022.
Ouais.
Là, je me suis dit, ok, là, ça commence à être chaud. C'est peut-être même plus grave que ce que je pensais. Donc, j'ai pris mes docs Excel. J'ai fait des rendez-vous avec mes comptables, etc. Et j'ai fait le point, moi, surtout moi, de mon côté. J'ai fait une trésorerie et un prévisionnel jour par jour de ce qui pouvait se passer en 2023 avec un scénario positif, un scénario médian, un scénario catastrophe. Et je voyais que ça allait potentiellement pas le faire et que ça allait être super chaud. Donc tout s'est accéléré entre... tout s'est accéléré début 2023. J'ai pris la décision assez rapidement et ça s'est enchaîné à ce moment-là. Mais entre le moment où j'ai commencé à être face au truc et la vraie prise de décision, je dormais plus, c'était compliqué.
Oui. Tu m'étonnes. En 2022, tu étais en déficit sur ta société ?
Alors, je ne sais plus si le bilan a été fait. Oui, elle était déficitaire, en effet.
Ok. En tout cas, moi, ce que j'avais remarqué en faisant les recherches, c'est que, mine de rien, toute l'audience que tu avais construite, toute la base cliente que tu avais, était hyper fidèle à ta boutique. Et j'ai lu les commentaires sur Facebook, notamment, de l'annonce de la fermeture de ta boutique. Et je vois qu'il y a des gens qui disaient qu'ils achetaient depuis 7 ans, qu'ils étaient super tristes de la nouvelle, qu'ils comprenaient, etc. Mais qu'en fait, je me suis rendu compte de la fidélisation que tu avais réussi à créer depuis toutes ces années. Et pour le coup, c'est vrai que c'est une vraie force. Et mine de rien, certes, il n'y a plus cette boutique, mais c'est potentiellement aussi des gens qui te suivront sur tes autres projets.
Bah, c'est ça qui est beau avec les réseaux sociaux. Et je ne m'imaginais pas du tout ça en me lançant là-dedans. Parce qu'il faut savoir que quand je me suis lancée en 2015, c'était le tout début d'Instagram. Moi, mes premières ventes, elles ont été faites grâce à ma page Facebook. Vraiment, ouais. C'était là, c'était sur Facebook, sur ma page Facebook, alors que maintenant c'est un réseau social pour des personnes plus âgées, comme on aime le dire, VS TikTok. Mais moi, mes toutes premières ventes, elles ont été faites grâce à Facebook. Et au départ, j'avais plus d'abonnés sur ma page Facebook de la boutique que sur Instagram. Et je me mettais pas trop sur Instagram. En plus, je me disais, ah ouais, mais bon, j'ai déjà Facebook à gérer, Instagram, on verra, c'est nouveau. Ça se trouve, les gens, ils vont pas trop accrocher plus que ça et tout. J'étais un tout petit peu réfractaire au départ. Et aussi parce que j'avais, je pense, déjà énormément de boulot et que ça m'a demandé encore plus de boulot. Mais pour moi, c'est la magie des réseaux et c'est ouf. Et je pensais pas avoir autant de soutien. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de clientes et beaucoup de messages concernant l'arrêt. Des super beaux messages. Hein. J'ai même eu des filles qui m'ont écrit des romans exceptionnels. Moi, ça m'a fait chialer toute cette histoire. Ouais, mais en même temps, je trouvais ça beau. Ça a été thérapeutique, tu vois.
Ouais, complètement. Et alors, du coup, donc, tu annonces la fermeture de ta boutique. Il y a du stock. Qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là ?
Eh bien, justement, grâce à cette communauté, j'avais prévu... je voulais pas l'annoncer trop tôt parce que je voulais que c'est que ce soit comme un pansement, on l'arrache et puis voilà, c'est fait. Parce que je savais que de devoir le révéler publiquement, c'est quand même une étape, et
c'est courageux.
Officielle, clairement, c'est encore plus officiel que le jour où vraiment juste on fait sa cessation juridique, bon ok, why not, mais vraiment le faire à l'annoncer officiellement, sachant qu'on a une communauté qui est derrière tout ce projet et qui nous soutient, et qui était même plus qu'une communauté, c'était des clientes, donc il y a eu l'annonce officielle, et en fait à l'annonce officielle, je leur ai expliqué qu'en fait il leur restait quelques jours pour commander, que toute la boutique, bien évidemment, passait à prix promotionnel et que c'était la dernière fois qu'elles pourront choper du lait AZ boutique. Donc, que c'est maintenant qu'il fallait le choper. Et elles ont été d'un super soutien parce qu'il y a quasiment tout le stock qui est parti. Il me restait un cabas Ikea, quoi.
Oui, effectivement.
Ah ouais, par rapport au stock que j'avais. Après, ça faisait un moment que je faisais plus de réassort. Ça faisait un moment que je recommandais plus quand même, parce qu'à partir du moment où j'ai vu les signaux d'alerte, j'ai plus recommandé de nouvelles co, j'ai plus recommandé de stock. Donc il y avait aussi déjà ce pré-écoulement qui a été fait. Je partais pas de mes stocks blindés, mais voilà, je suis quand même une boutique qui est là depuis 8 ans, donc j'avais aussi des hors-série, des invendus, j'avais tout ça, et donc j'avais quand même un stock important, et tout s'est vendu, ouais, en 24-48 heures, il restait plus rien, c'était ouf, j'étais choquée.
Oui, tu m'étonnes, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est juste la récompense de tout ce que t'as donné pendant 8 ans, parce que comme tu le disais tout à l'heure, quand t'arrives quelque part, tu veux pas commencer à prendre et recevoir, mais il faut aussi être prêt à donner de son temps, de son énergie, et en fait, toutes ces années sur lesquelles t'as charbonné, t'as eu le retour et la récompense quand t'as décidé de prendre cette décision hyper courageuse et hyper difficile, puisque les gens étaient là pour te soutenir, quoi.
Ouais, c'est vrai, je le voyais pas comme ça. J'espérais qu'on me soutienne, j'espérais qu'on me comprenne aussi, que mes clients soient pas trop déçus, et ça a été le cas, donc ça m'a fait plaisir. Après, bon, forcément, il y en a plein qui ont été déçus, mais en quelque sorte, elles m'en voulaient pas, tu vois.
Oui. Ouais, c'est ça. Tu peux être déçu que ta boutique préférée ferme, mais en même temps, tu peux rien y faire, quoi. C'est des choses qui arrivent et tu peux pas en vouloir à la personne. Ça, c'est sûr.
De ouf.
Et du coup, c'est quoi la suite maintenant? Donc, tu décides de fermer ton entreprise. Le stock est presque entièrement écoulé grâce à ta communauté de dingue. Est-ce que tu commences tout de suite à travailler sur d'autres choses, ou est-ce que tu te laisses du temps, tout en sachant que, si je me trompe pas, tu as en parallèle aussi un petit peu une activité d'influenceuse?
Eh bien non, je me laisse pas le temps, et c'est ça mon plus gros défaut, c'est ça mes problématiques. Alors déjà, il faut savoir qu'en parallèle de Léa Z Boutique, j'ai déjà d'autres projets qui sont révélés et d'autres qui ne le sont pas encore, qui sont en backup. Donc à présent, je souhaite développer une marque que j'ai déjà, qui s'appelle l'Atelier Flower Box, qui existe du coup depuis 2020. C'est une marque plutôt secondaire pour le moment, parce que forcément les AZ Boutique, c'est mon premier bébé, c'est moi, c'est une marque incarnée, donc je suis 99% au front avec les AZ Boutique, mais en parallèle j'ai aussi développé du coup cette marque. Donc c'est un univers fleuri qui me ressemble beaucoup aussi, où on est un petit peu sur du girly et voilà, tout ce qui me ressemble, tout ce que j'aime. Donc c'est des boîtes de fleurs à offrir ou à s'offrir, à mettre dans sa déco, il y a différentes tailles, couleurs. Donc je souhaite développer cette entreprise, parce que celle-ci elle a déjà vu le jour et elle existe déjà. J'ai la partie, en effet, créatrice de contenu. C'est une casquette que je cumulais déjà avec la boutique, mais maintenant, c'est la même chose, juste sans boutique. C'est Léa Z sans boutique. J'ai hésité à l'appeler comme ça, mon compte, mais après, je me suis dit, bon, tout le monde ne va pas forcément comprendre. mais donc, voilà, c'est la même chose, parce qu'en réalité, étant donné que j'étais proche de ma communauté, je faisais déjà de la création de contenu. Tu vois, tous mes réels, c'était déjà des astuces mode. C'était pas juste, waouh, ma chemise, elle est trop belle, vite, achetez-la. C'était toujours, cette chemise, elle peut être portée par tel morpho, ou elle peut être portée de cette manière, ou vous ne savez pas comment assortir telle couleur avec telle couleur ou tel motif. Donc j'ai toujours donné des conseils, des inspi look, des astuces mode. Donc ça, j'aime le faire, j'ai envie de continuer à le faire, et c'est ce que je fais déjà. J'ai eu un petit coup où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de garder ce compte, est-ce que je garde ce compte, et en fait mon entourage m'a dit, mais attends, les filles, elles attendent que ça, elles ont envie que tu continues, je pense qu'il y a personne qui a envie que t'arrêtes. Et j'avais fait un petit sondage sur mon compte en disant, est-ce que vous avez envie que je vous continue à vous poster des contenus mode, des conseils? Et tout le monde m'avait dit oui, et ça m'a redonné de la force de me dire, oui, en fait, je vais pas laisser ce compte à l'abandon, et j'ai envie de pouvoir continuer à transmettre mes petites astuces et mes conseils mode, et puis mes inspi styles. Je souhaite aussi transmettre mon savoir, mon expérience de ces 8 années en tant qu'entrepreneuse femme. Pour le moment, je fais du consulting au cas par cas, donc selon les demandes que j'ai via Instagram, parce qu'on me connaît aussi en tant qu'entrepreneuse. Au-delà de la communauté mode que j'ai créée, on sait aussi que c'est moi qui ai créé mon entreprise et j'ai déjà fait pas mal de contenu autour de l'entrepreneuriat. Donc, de temps en temps, j'ai des demandes qui émanent dans ma messagerie et puis j'y réponds. Et puis, selon les disponibilités, je fais du consulting. Et le reste, c'est top secret. Ça arrive soon, mais j'aimerais pouvoir transmettre mon savoir à plus grande échelle et pourquoi pas encore un autre projet dans la mode.
En tout cas, ce que je trouve génial, c'est que ça t'a pas dégoûté de l'entrepreneuriat, pour le coup. Mais comment est-ce que tu fais aujourd'hui avec toutes ces activités et ces idées pour trouver un équilibre finalement entre ton job et ta vie à toi en tant que Léa ?
Alors actuellement, je suis dans une phase de transition. Donc je pense pas que c'est une phase qui représente vraiment ma vie. Ouais. Parce que actuellement, je suis un petit peu dans la vallée du doute où je remets beaucoup de choses en question. Je culpabilise aussi très vite parce que je pense que ma valeur travail est forte. Donc très vite, je me dis oui, mais là, je travaille, mais pour le moment, mon projet, il est toujours pas sorti. On m'attend, on m'écrit certains messages. Coucou, tu fais quoi maintenant ? Mais sauf qu'en fait, ben, les projets entrepreneuriaux, et surtout quand ils ont une belle ambition, eh ben, ça prend du temps, ça prend énormément de temps, donc j'apprends la patience aussi, hein. C'est forcément j'en tire plein de belles choses de cette expérience-là et de cette première expérience qui du coup sera pas la dernière, ça maintenant c'est bon, c'est annoncé. Mais les conseils que je donnerai du coup au global et que j'applique aussi à moi pour en effet comment s'organiser dans sa vie d'entrepreneur et dans sa vie perso qui aimerait faire comme moi, en quelque sorte, c'est déjà de ne pas sous-estimer le travail que cela représente. Donc ça va aussi un peu avec la patience, parce que si on ne sous-estime pas le travail, on est conscient que ça va prendre du temps. Avoir sa propre identité, son propre style, ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose qui doit être à l'image de notre personnalité, à nous, en tant que dirigeant, mais voilà, de définir l'identité de sa marque et que ce soit vraiment celle qui nous appartient et de ne pas recopier les autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'inspirer, tout le monde s'inspire, c'est normal, mais il ne faut pas recopier. Moi, je me suis fait beaucoup copier pendant mes années Léa Z Boutique et j'ai eu beaucoup, beaucoup de problématiques vis-à-vis de ça. La motivation, la détermination et l'organisation, c'est un peu les mots-clés principaux qui ont l'air un peu bullshit, tu sais, comme quand on met dans une lettre de motivation « je suis organisée » et tout, mais c'est vrai, il faut être motivé, il faut avoir la niaque. La détermination, ça va avec. Il faut pas lâcher le morceau et il faut se dire que ouais, peut-être aujourd'hui j'ai une réponse négative pour un projet que j'attendais depuis longtemps. Je comptais sur tel ou tel prestataire ou tel contrat. Bah ouais, mais je suis déterminée. Donc si j'ai un nom là, et ben je vais chercher le futur contrat ou l'autre prestataire, le prochain. Et puis on va pas lâcher et s'organiser. Donc si t'es pas bien organisé, tu vas travailler tout le temps et faut apprendre à se dégager du temps libre. Donc moi, mon temps libre, il est quand même très limité. Franchement, mon temps libre, il va être samedi après-midi, samedi soir et dimanche matin, en gros. Mais sinon, je reprends assez facilement mon ordi, mon téléphone. Donc voilà, après, il faut juste trouver son propre équilibre et l'accepter comme il est. Et si à un moment donné, on se rend compte que oulala, la charge mentale, c'est un peu trop. Ok, quand est-ce que je peux me dégager du temps ? C'est de l'organisation, c'est juste quand j'acte le moment auquel je m'octroie ce temps. Et puis à partir de ce moment-là, on respecte son planning, tu vois.
Qu'est-ce que toi, tu fais pour nourrir ta motivation ? Genre, est-ce qu'il y a des ressources, des livres, des films, des podcasts ? Est-ce qu'il y a des activités qui t'aident à nourrir, toi, ta motivation continuellement ?
Non, je pense qu'elle émane premièrement de moi, avant tout. Après, j'ai des coups de mou aussi. Donc, en effet, il peut y avoir... je sais qu'il y a des vidéos YouTube de motivation qui peuvent être motivantes, tu vois, comme par exemple Gary Vee ou des entrepreneurs aux US où ça peut être super inspirant. Moi, je sais qu'en fait, la réussite, c'est un de mes moteurs. Et donc, j'ai envie de réussir, j'ai envie de me donner les moyens d'arriver à faire ce que je veux dans ma vie. Et c'est ça ma motivation première et je pense la valeur travail aussi, tu vois.
Ok. En tout cas, c'est intéressant. Merci beaucoup pour tous tes partages. Moi, je suis venue à bout de toutes mes questions. Je te remercie pour ton temps, pour tous les conseils que tu as pu partager, pour ta transparence aussi. Je trouve que c'est important et que mine de rien, ça manque de contenu de ce type. Puis je pense que pour ton audience aussi, les personnes qui suivaient ta boutique, bah, c'est cool aussi d'avoir un épisode où tu partages un peu les coulisses de tout ce qui s'est passé.
Bah ouais, là, c'est vraiment backstage. C'est moi qui me livre, qui m'ouvre. J'ai rarement fait un contenu comme ça. Du coup, en effet, je parle vraiment des coulisses, comme tu l'as dit. J'explique comment ça s'est passé, mon cheminement, mes réflexions et puis un petit peu plus qui je suis en tant qu'entrepreneuse. Parce que la mode prenait une grande place et je trouve que c'est super cool qu'on puisse aussi me découvrir sous cet angle. J'espère que le contenu plaira et que je pourrai peut-être inspirer plein de personnes et leur donner également la motivation de se lancer ou de continuer les projets qu'ils ont entrepris.
Mais carrément. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver pour finalement suivre ce que tu vas nous proposer sur les mois à venir et continuer à avoir une idée de ton aventure ?
Bah du coup, j'ai le compte mode qui est Léa Z Look, j'ai le compte entrepreneuriat qui est Léa Zélie, et puis j'ai le compte de l'atelier Flowerbox qui est déjà en ligne depuis un petit temps, donc c'est l'atelier Flowerbox.
Très bien, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode pour les personnes qui ont envie d'aller regarder un peu tout ça. Merci beaucoup Léa.
Merci à toi Safia, au plaisir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.